Il est grand temps pour nous de continuer notre lecture du livre de l'Apocalypse. Et avant d'aborder notre texte d'aujourd'hui, le chapitre 11, il m'a semblé utile de faire peut-être un petit rappel de ce que nous avons vu jusque-là. Le livre de l'Apocalypse s'ouvre sur une grandiose vision que Jean a sur l'île de Patmos, où il voit le Christ ressuscité. Et le Christ le charge d'une mission, écrire une lettre. Une lettre aux sept églises d'Asie mineure. Excusez-moi, un petit souci technique. Voilà. Il écrit donc, et l'Apocalypse, de ce fait, est une épître parmi les autres. Dans un premier temps, le Christ envoie un petit mot à chacune de ces sept églises. Et puis, au chapitre 4, nous pénétrons dans les lieux célestes, dans le quartier général de Dieu, dans la salle de trône où Dieu règne sur l'univers. Et nous y croisons un autre personnage, quelqu'un qui ressemble à un agneau immolé, c'est le Seigneur Jésus. Et cet agneau reçoit un livre, un rouleau, qu'il est seul digne de recevoir, et un rouleau mystérieux parce qu'il est scellé de sept sceaux. Et nous assistons à l'ouverture d'abord de six de ces sceaux. À chaque fois qu'on ouvre un sceau, il y a quelque chose qui se produit. D'abord les quatre chevaliers de l'Apocalypse et puis d'autres scènes que je ne voudrais pas rappeler maintenant. En tout cas, on arrive au sixième sceau et c'est la fin du monde. C'est le jugement qui est imminent, hein, et on s'attend à ce que le septième sceau, quand il est ouvert, ça va être l'au-delà, le ciel et peut-être l'enfer. Mais non, Jean interrompt son exposé. Il nous présente deux visions. D'abord, enfin, deux visions qui, à mon avis, concernent le peuple de Dieu, qui représente sous deux aspects. D'abord, sous son aspect d'élection et de protection, et il utilise l'imagerie des 12 tribus d'Israël, et ensuite, sous un autre aspect qui nous est peut-être plus familier, celui d'une grande foule bigarrée, de toute langue, de toute origine, hein, le peuple de Dieu et tout cela. Et puis, enfin, on ouvre le septième sceau. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne se passe rien, parce que Jean va revenir en arrière. Vous savez, c'est comme dans les matchs de foot, hein, quand il y a un but, ou une faute majeure, quelque chose qui vaut le coup d'œil, hein, on revient en arrière, on montre la même chose vue de différents angles. Et c'est exactement ce que nous voyons dans l'Apocalypse aussi. Hein. Et maintenant, il commence une série de sept, cette fois-ci c'est sept trompettes, chaque trompette correspondant cette fois-ci à un jugement. Et nous arrivons donc à la septième trompette, mais non, on n'a pas droit tout de suite à la septième trompette, c'est comme pour les sept sceaux. D'abord, nous avons de nouveau deux visions. La dernière fois, nous avons vu la première de ces deux, à savoir la scène où on demande à Jean de manger un petit rouleau. Il est de nouveau envoyé en tant que prophète pour prophétiser contre les nations. Et maintenant, nous arrivons au chapitre 11, qui nous raconte d'abord la deuxième de ces visions et ensuite la septième trompette qui résonne. Donc, je vous propose de lire avec moi le chapitre 11. Et il me fut donné un roseau, comme une baguette, avec les mots « Lève-toi et mesure le sanctuaire, l'autel et ceux qui y prient. » Mais la cour extérieure du sanctuaire, laisse-la de côté et ne la mesure pas, car elle a été donnée aux nations. Ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins et ils prophétiseront pendant 1260 jours, habillés de sacs. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un cherche à leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un chercherait à leur nuire, c'est ainsi qu'ils devraient être mis à mort. Ceux-là ont le pouvoir de fermer le ciel, afin que la pluie ne mouille pas la terre pendant la durée de leur ministère prophétique, ainsi que le pouvoir sur les eaux pour les transformer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de malheurs aussi souvent qu'ils le veulent. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres se trouveront sur la grande place de la grande ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Les gens de tous les peuples, tribus, langues et nations regardent leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils n'enlèvent pas leurs cadavres pour les mettre dans un tombeau. Les habitants de la terre se réjouissent à leur égard et font la fête. Ils s'envoient des cadeaux les uns aux autres, car les deux prophètes avaient torturé les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se mirent debout. Une grande terreur s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent une voix venant du ciel qui leur dit « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis. En cette heure, il y eut un grand tremblement de terre. Un dixième de la ville s'écroula et 7 000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre. Ceux qui restaient étaient terrorisés et rendaient gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé. Voici le troisième malheur vient bientôt. Le 7e ange sonna. On entendit des voix fortes dans le ciel dire « Le règne mondial de notre Seigneur et de son Messie est venu, il règnera pour toujours. » Les 24 anciens assis devant Dieu sur leur trône tombèrent sur le visage et adorèrent Dieu, disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car Dieu a déployé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont mises en colère et ta colère est arrivée, tout comme le moment de juger les morts et de donner leur solde à tes serviteurs, les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Le sanctuaire de Dieu dans le ciel s'ouvrit et on vit le coffre de son alliance dans son sanctuaire. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Bon. Essayez de remettre quand même le texte. Notre texte s'ouvre sur une vision un petit peu spéciale. Parce que la première chose que nous voyons, c'est que Jean reçoit une baguette, quelque chose pour mesurer. Voilà, merci. Et il doit donc mesurer le temple, ou plus précisément, distinguer 2 parties du temple. Il y a la cour extérieure et puis l'intérieur. Alors, si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, vous connaissez aussi un petit peu le livre d'Ézéchiel, et à la fin du livre d'Ézéchiel, nous avons plusieurs chapitres qui ne raconte que ça, où Ézéchiel est appelé à mesurer dans le fin détail le temple et ses constructions. Ici, c'est un abrégé, mais Jean fait la même chose. Il est difficile de savoir exactement à quoi ça correspond, mais ce qui est certain, c'est qu'il attire notre attention sur ce temple et sur sa bipartition, c'est-à-dire cette partie intérieure qui est en quelque sorte protégée, et puis la cour extérieure qui, elle, semble être inondée par les nations. Et on a l'impression que les nations, en fait, s'approchent du temple dans un but a priori hostile. C'est comme un siège. Ils foulent aux pieds, nous est-il dit, la cour extérieure, mais la partie intérieure reste protégée. Et c'est celle-là qu'il doit mesurer. C'est très intéressant parce que si vous connaissez un peu le temple de Salomon, de l'Ancienne Alliance, vous savez que là aussi, il y avait des parvis, et notamment un parvis extérieur. Quel était son but ? C'était ce qu'on appelait le parvis des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. C'était l'endroit où pouvaient venir des non-juifs pour adorer Dieu. C'était donc l'enceinte extérieure du temple, ils avaient accès là, ils ne pouvaient pas aller au-delà, sous peine de mort, mais ils pouvaient venir là, présenter leur requête devant Dieu et prier Dieu. C'était en quelque sorte la partie réservée au témoignage vers l'extérieur. Et c'est aussi ce qu'on voit ici, c'est-à-dire cette partie, elle est occupée par les nations. Et maintenant, nous allons voir 2 témoins qui se lèvent et qui vont justement investir ce lieu-là pour prophétiser. Ce sont 2 témoins, nous est-il dit. Plus loin, il est dit que ce sont 2 prophètes. Nous allons essayer de comprendre de qui il s'agit. Mais leur but, visiblement, c'est de prophétiser à l'égard de ces nations, c'est de s'adresser à ils prophétiseront pendant 1260 jours. Alors, si vous divisez par 30, vous arrivez à un nombre de 42 mois. Et d'ailleurs, il est question de 42 mois d'occupation de ce parvis par les nations. Donc, pendant toute la période, en fait, où les nations sont là, ces témoins prophétisent. Et ça correspond aussi à 3 ans et demi, 3 ans étant la moitié de, et demi étant dans la moitié de 7, hein, vous voyez qu'on est dans les chiffres symboliques là. Alors, qui sont ces deux témoins? Bonne question. Premièrement, il nous est dit qu'ils sont deux oliviers et deux chandeliers. Alors ça, on est dans l'imagerie, bien entendu. L'olivier, en général, pas toujours, mais en général, dans l'Écriture, symbolise le peuple d'Israël. Le chandelier, dans le livre de l'Apocalypse, il nous a expliqué explicitement au premier chapitre que le chandelier, c'est... Enfin, les chandeliers, ce sont les églises. Donc, on est sur une note de peuple de Dieu. L'église étant elle-même ancrée, vous le savez, greffée sur l'olivier d'Israël. L'église poursuit en quelque sorte la vocation d'Israël, incluant évidemment juifs et non-juifs. Alors, nous avons là deux témoins qui sont olivier et chandelier. Ces deux images sont liées, bien entendu, même si ça apparaît pas tout de suite, parce que le chandelier en question, c'est un porte-lampe, et ces lampes fonctionnent à l'huile d'olive. Donc, en quelque sorte, vous avez là un porteur de lumière pour les nations, et ce qui produit, en fait, l'élément nécessaire pour éclairer. Donc, vous avez là une image d'un groupe de personnes qui témoignent aux nations pendant la durée de l'occupation du parvis extérieur par ces nations et qui portent la lumière à ces nations. L'interprétation la plus sensée que je connaisse, celle que j'adopte personnellement, c'est qu'il s'agit là de l'Église, tout simplement. Ces deux témoins représentent l'Église qui témoigne pendant la durée de l'Église, pendant la période qui sépare l'ascension du Christ de son retour aux nations et qui apporte la bonne nouvelle aux nations. Ça veut dire, mais pourquoi il y en a deux? Il suffirait un seul. C'est que dans l'Écriture, pour qu'un témoignage soit valable, il faut au moins deux témoins. Autrement dit, leur nombre de deux symbolise que leur témoignage est complet et valable et suffisant. Alors, par la suite, il nous est donné encore des détails sur ces deux-là, et vous verrez que c'est des imageries de nouveau de l'Ancien Testament. Il nous est dit qu'ils ont le pouvoir de couper la pluie. Et là, évidemment, si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, vous savez que c'est une allusion au prophète Élie. Et puis, non seulement ça, entre nous, quand il est question d'Élie qui arrête la pluie en Israël, c'est pendant 42 mois. Donc, vous avez là, de nouveau, une correspondance avec la durée de leur ministère, qui est de 1260 jours. Donc, une allusion manifeste à Élie, et puis une deuxième qui, elle, se réfère plutôt à Moïse, qui, lui, avait transformé l'eau en sang en Égypte, et qui avait frappé la terre d'Égypte de toutes sortes de plaies. Donc, il y a dans cette action prophétique de l'Église quelque chose qui remonte aux anciens prophètes. Aussi bien Élie que Moïse étaient des prophètes d'Israël dans des périodes où le peuple était sous pression. Et là encore, nous voyons que nous avons une situation qui n'est pas facile pour ces deux témoins. On sent qu'ils sont sous attaque. Mais ils savent se défendre, et ils se défendent avec leur bouche, avec leur témoignage. Je pense que c'est important de le noter. Donc, pour résumer, on pourrait en parler longuement, bien entendu, je n'ai pas le temps ici, mais l'image d'ensemble qui se dégage de cette vision, c'est qu'il s'agit là, ici, de l'Église, ou plus précisément, du témoignage de l'Église. De l'Église en tant que témoin envers les nations, qui pendant un temps... Le temps de l'Église s'adresse aux nations et apporte aux nations la lumière qu'elle est censée leur apporter. Vous êtes la lumière du monde, a dit le Christ, et c'est exactement ce que font ces deux témoins-là. Ils sont sous attaque, ils se défendent victorieusement, et leurs adversaires s'en portent pas forcément bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'histoire de l'Église. À plusieurs reprises, l'Église a été massivement attaquée jusque-là, à chaque fois, elle l'a emporté. Vous avez eu l'Empire romain qui a essayé d'écraser l'Église. Eh bien, l'Empire romain n'est plus, mais l'Église est encore. Staline a essayé d'écraser l'Église en Russie. Eh bien, Staline est mort depuis longtemps et l'Église est encore là. Hein? Donc, ces témoins-là résistent bien jusqu'à un certain moment. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il nous est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, qu'est-ce qui va se passer? C'est la bête qui monte, qui leur fait la guerre, et là, coup de tonnerre, la bête les tue. La bête les tue. Vous savez, l'Église, c'est un peu comme le film de Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Si vous ne l'avez pas vu, je vais le résumer en quelques phrases. C'est un film qui raconte l'histoire de quatre frères. Famille avec quatre fils qui tous partent à la guerre. C'est des Américains, ils partent en guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et trois d'entre eux se font tuer. Et alors le commandement américain décide que ce n'est pas supportable qu'une famille perde ses quatre fils. Et donc on monte un commando pour aller chercher le quatrième, le soldat Ryan, qu'il faut évacuer du front. Vu de nous, la mission de l'Église, c'est d'aller dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Il faut que le monde entende la bonne nouvelle. C'est notre raison d'être en tant qu'Église. Vu de Dieu, on peut dire que ça se présente un peu différemment. Parce que l'Écriture nous dit que dès avant la fondation du monde, Dieu a choisi les siens, les élus, ceux dont il a décidé qu'il allait les sauver. Et il connaît leur nom. Et la mission de l'Église, vue de Dieu, pourrait-on dire, c'est d'aller chercher cela. Avec la difficulté supplémentaire que n'avaient pas les commandos du soldat Ryan, c'est qu'on ne connaît pas leur identité. Mais ce que fait l'Église, c'est qu'elle se place et va partout pour aller chercher ceux que Dieu a choisis, pour le ramener dans le bercail. C'est notre vision, pourrait-on dire, vue de Dieu. Nous n'avons pas cette information, nous ne savons pas qui ils sont, nous ne connaissons pas leur nombre, mais sachez qu'ils ont un nombre et qu'ils sont des noms et que leur nombre est limité. Et lorsque leur nombre sera atteint, à ce moment-là, la mission de l'Église sera achevée. Vous trouvez ça aussi dans le chapitre 6, hein, un des textes clés de l'Apocalypse, où les martyrs crient à Dieu et disent « Jusqu'à quand vas-tu supporter ça? Jusqu'à quand enfin tu vas te venger ?» Nous venger. Et il leur a dit, attendez un peu, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de ceux qui devaient être mis à mort sera complet. Donc vous avez cette même idée qu'il y a un nombre, il y a un moment dans l'histoire où le nombre est complet. Et c'est là que la mission de l'Église sera achevée et c'est là, apparemment, que Dieu permettra que l'adversaire anéantisse l'Église. Il anéantit l'Église. Ça ne veut pas forcément dire, me semble-t-il, que tous les chrétiens auront été tués. Mais elle sera anéantie en tant que deux témoins. Son témoignage sera anéanti. Sans doute une persécution massive viendra qui fera en sorte que l'Église deviendra clandestine et qu'elle ne sera plus présente sur la place publique. Son témoignage aura disparu. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura plus de chrétiens dans le monde. En tout cas, quand ça se produit, c'est la fête. Le monde est content. Enfin, on est débarrassé de cela. Qu'est-ce qu'ils étaient pénibles. Et on se fait la fête, et on se fait des cadeaux. C'est vraiment un moment de grande joie pour le monde. L'Église est enfin anéantie. Super. Et on laisse les cadavres traîner, on fête, c'est la grande joie. Mais cette joie n'est pas de longue durée, parce que ça ne dure que 3 jours et demi, dit le texte. Alors, évidemment, durée symbolique, mais quand même, observez que 3 jours et demi, c'est quand même nettement plus court que 3 ans et demi. Le ministère de l'Église a duré cette durée-là. La période de sa mort, si j'ose dire, est quand même beaucoup plus court. Et qu'est-ce qui se passe après ces 3 jours et demi? Eh bien, Dieu ressuscite l'Église. Et en même temps, et là nous avons l'ouverture du 7e sceau, en même temps c'est la fin. C'est la fin. Et les anciens disent, maintenant le règne de notre Dieu est venu. Et le moment de juger les morts est là. Ce qui veut dire que la résurrection de l'Église coïncide, pour ainsi dire, avec la fin du monde tel que nous le connaissons. Donc, on pourrait dire, pour résumer, c'est que, si je comprends bien ce texte, l'Église a témoigné jusqu'à un certain point que nous ne connaissons pas. Après cela, sans doute y aura-t-il des persécutions massives à l'échelle mondiale, et le témoignage de l'Église sera anéanti pendant une durée, et après peu de temps, Dieu ressuscitera l'Église et mettra une fin à l'histoire du monde. C'est de cette manière-là que je comprends ce texte. Et si vous réfléchissez un peu, c'est assez cohérent avec le reste des Écritures, parce que l'Église ne fait que reproduire ce que son maître a fait avant elle. C'est-à-dire, elle a son temps de témoignage, comme le Seigneur a prêché sur cette terre, vient de sa mort, suivi de sa résurrection et son entrée dans la gloire. Tout cela se trouve donc non seulement à l'échelle du Seigneur et de chaque individu chrétien, mais aussi, ça se retrouve aussi pour l'organisme que nous formons, pour l'Église de Dieu. Alors, vous allez me dire, supposons que ça se passe comme tu le dis. À quoi bon nous dire ça? À quoi bon nous le dire? Pourquoi Dieu nous donne des indices comme ça dans l'Écriture que l'avenir de l'Église ne sera pas tout rose? Je pense que c'est toujours bon de savoir. Et je vais vous donner une illustration de cela, quelque chose qui remonte à décembre 2004. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est produit en décembre 2004? Un événement majeur. Eh bien, en décembre 2004, il y a eu le tsunami en Asie, qui a causé, je crois, à peu près 250 000 morts. Et si vous avez regardé les nouvelles à l'époque, moi je me souviens encore, on voyait des films filmés par des amateurs aux plages de Thaïlande, que sais-je, et des gens s'étonnaient que l'eau, en fait, avait reculé. On ne savait pas très bien, c'était un phénomène aussi inouï. Et ceux qui ne savaient pas, c'est que la vague allait venir. Et on voyait à l'horizon un ruban grisâtre, curieux, on ne savait pas trop. Mais peu de temps après, ils ont su. Et j'ai ici une image de la vague. Et vous voyez, quand la vague arrive, c'est trop tard. Mais s'ils avaient su avant que la vague allait arriver, ils pouvaient prendre des précautions. Ils pouvaient se réfugier sur les toits des hôtels, dans les arbres, que sais-je. Ils n'auraient pas été tués par la vague quand elle arrive. Et donc, c'est utile de savoir à l'avance que quelque chose va se produire. On peut prendre ses précautions. Alors, je précise tout de suite une chose. Quand vous sortez de la salle de culte aujourd'hui, ne vous précipitez pas chez l'arabe du coin pour acheter de la farine, du sucre et de quoi vivre pendant une période. Vous vous mettez dans un bunker et attendre que ça passe. Ce n'est pas l'intention de vous faire peur et de faire en sorte que vous essayez de vous protéger un maximum. Nous avons vu que la période de l'Église est la période de témoignage. Et tant que ça n'arrivera pas, notre vocation est de témoigner et de ne pas nous barricader quelque part en attendant le grand jour J. Notre but, c'est de témoigner au monde. Et nous ne savons pas quand ça va arriver. Peut-être ça va être bientôt, peut-être pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça viendra. Et quand ça viendra, ne soyez pas surpris. Mais en attendant, ne soyez pas paniqués. Mais soyez sages et préparez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Avant de vous dire 3 choses que me semble que l'Église et nous pouvons faire, je voudrais vous transmettre une parole que j'ai entendu dans la bouche d'un théologien très à la mode en ce moment, un certain John Piper. Et John Piper, il a dit quelque chose qui m'est resté et que je vous transmets. Il a dit, en parlant des moniteurs de l'école du dimanche, je m'adresse donc plus particulièrement à eux en ce moment, il leur a dit, quand vous regardez les enfants qui vous sont confiés, considérez que c'est les martyrs de l'Église à venir. Alors, je ne veux pas vous pousser à avoir des idées morbides en regardant les enfants. Mais sachez que ce sera peut-être pour eux cette période. Et donc, il faut les équiper. Il faut les équiper. Et je vous supplie, dans votre cours de formation pour nos jeunes, prévoyez aussi un petit enseignement sur ces choses-là. Sur le fait que l'avenir ne sera pas tout rose. Sur le fait que être à Jésus-Christ, c'est aussi être prêt à tout donner, y compris la vie s'il le faut. Et nourrissez-les un peu à ces témoignages de l'Église persécutée que nous connaissons. Dès la période des pères apostoliques, vous savez, des textes saisissants comme le martyr de Polycarpe. Polycarpe, c'était l'évêque de Smyrne qui a choisi de mourir pour Christ. Il nous a laissé son témoignage. C'est bouleversant. Vous pouvez lire avec eux quelques extraits de lettres de prison de Dietrich Bonhoeffer, ce grand protestant allemand qui est mort dans les geôles nazis, et beaucoup d'autres choses. Mais de grâce, préparez-vous un petit peu, et préparez-les surtout un petit peu à ces choses qui vont venir. Maintenant, je voudrais quand même parler un peu à l'Église, dans son ensemble, et pour résumer quelques éléments, je me suis dit, ce serait intéressant de regarder un peu comment ça s'est passé dans l'histoire. Parce que nous avons aussi, en France, nous avons déjà vécu des périodes de persécution. Et la plus frappante, et celle qui est extrêmement bien documentée, c'est la persécution des Huguenots par Louis XIV, avant et après la révocation de l'édit de Nantes. Et j'ai étudié un peu cette histoire, et j'ai gardé trois éléments de cette persécution qui me semblent assez exemplaires sur le plan de la persécution. Trois éléments qui, à mon avis, vont revenir et auxquels on peut, me semble-t-il, dès maintenant se préparer. Quels sont ces éléments? Le premier élément, c'est que Louis XIV a essayé de décapiter l'Église. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait arrêter tous les pasteurs, il les a mis sur les galères ou il les a fait tuer. Et ça, c'est efficace. Et c'est quelque chose qu'on voit partout où il y a la persécution. Le persécuteur essaie d'éliminer la tête, de détruire donc les responsables et par là même priver l'Église de ses responsables et donc la faire s'écrouler. Alors, première observation, la tête de l'Église, ce n'est pas le pasteur. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas la décapiter. Mais il n'empêche, l'Église locale peut être drôlement atteinte si on arrache les responsables. Et ça, c'est facile. Si j'étais le ministre de l'Intérieur et je serais chargé de la persécution de l'Église, je saurais m'y prendre. Je ferais une saisie dans les fédérations, hop, et puis un coup de filet synchronisé, et on arrête tous les pasteurs. C'est facile. Et ça fait drôlement mal aux Églises. Mais je crois qu'on peut préparer l'Église à cette éventualité en se disant, nos structures ne doivent pas être de sorte que le pasteur soit la clé de voûte. Si vous l'enlevez, tout s'écroule. C'est-à-dire, il faut nous donner des structures qui résistent à l'absence de pasteur ou de responsable. Quand je dis pasteur, ce n'est pas uniquement le pasteur, c'est aussi les gens qui enseignent, moi aussi. On est une proie facile. Il faut que le tout tienne, même si vous enlevez ces quelques éléments. Donc nos structures ne doivent pas être extrêmement pyramidales, ça serait une folie. Et vous ne devez pas avoir de structure un peu en étoile, où le pasteur est au centre de tout et tous les fils passent par lui. C'est malsain. Ce n'est pas biblique d'ailleurs. Mais en plus de ne pas être biblique, c'est drôlement embêtant en période de persécution. Donc je crois qu'il faut réfléchir. Et quand on a eu la période sans pasteur, nous avons doter l'Église d'une structure qui fonctionne comme ça. Mais encore faut-il maintenir ses réflexes et comme nous sommes une période où, nous, où le, l'avenir pastoral est sur toutes les lèvres, il me semble que c'est un moment qu'il faut peut-être, où il faut peut-être rappeler ces choses. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est quelque chose que Louis XIV a fait avec brio. Il a fermé tous les lieux de culte. Enfin, d'abord, on les a raréfiés, on a détruit quelques églises, et puis ils avaient le droit de se réunir que dans certains endroits. Et puis, enfin, il a serré la vis, mais pour finir, ils n'avaient plus lieu de culte. Ça aussi, c'est très facile à mettre en œuvre. Si j'étais un persécuteur, je ne me priverais pas. Fermer une salle, rien de plus facile. Interdire des réunions, c'est facile. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, nous doter de structures qui peuvent supporter ça. Et nous le savons déjà. Ce sont les groupes de maisons. Ce sont les groupes de maisons. Et elles peuvent prendre le relais en termes de persécution. Mais, bien entendu, et j'insiste sur ça, c'est maintenant qu'il faut les créer. Et c'est maintenant qu'il faut s'y attacher. Pourquoi? Parce que quand vient la persécution, elle vient accompagnée de deux garces. La délation et la suspicion. Et quand il s'agit de votre vie, eh bien vous devenez drôlement regardant sur les gens que vous admettez dans votre cercle. Et donc, ça sera difficile, une fois que la vague vient, de chercher un groupe auquel se rattacher. Mais si vous faites ça maintenant, si vous intégrez dans un groupe de maison maintenant, vous êtes déjà préparé à cette éventualité. Troisième aspect que je retiens de la révocation de l'édit de Nantes, Louis XIV a essayé de priver les gens de Bible. Et ça, c'est grave pour l'Église. Parce que l'Église est notre référence constante. Et si on nous prive de ça, nous sommes mal. Et le persécuteur le sait. Et si vous allez dans le musée du désert, par exemple, vous allez trouver des choses intéressantes parce que la créativité des chrétiens était grande aussi. Je me souviens avoir vu des toutes petites Bibles écrites en minuscules que les dames pouvaient cacher dans leur chignon. Et comme ça, même s'il y avait une fouille, eh ben, la Bible n'était pas découverte. Là aussi, je dirais, préparez-vous maintenant. C'est maintenant que ça se joue. Je ne vous dis pas de constituer des stocks de Bibles, ce n'est pas ça. Mais de... Soyez des éponges. Aspirez tout ce que vous pouvez maintenant. Vous vivez dans une époque et dans un coin du monde où vous pouvez faire ça. Où les offres sont magnifiques. Vous pouvez poser toutes vos questions si vous en avez. Vous pouvez approfondir votre connaissance de l'écriture. Il y a tous les moyens. Il y a tant de choses. Il y a même trop de choses. Mais remplissez-vous comme des éponges. Un peu comme Joseph, vous voyez, qui savait d'avance qu'il y aura des années de disette, qu'est-ce qu'il a fait? Il a constitué des stocks pour être préparé pour ces mauvais jours. Vous pouvez faire de même aujourd'hui. Une pratique que je trouve excellente, que je vous recommande en tout cas, c'est apprenez par cœur certains passages de l'Écriture. Des passages clés. Je ne vous dis pas d'apprendre par cœur les généalogies des chroniques, mais il y a des passages dont vous aurez besoin. Et même si on vous fout en prison et on vous prive de tout, c'est très difficile de vous priver de votre mémoire. Préparez-vous maintenant à ces mauvais jours, car ils viendront. Ils viendront. Je m'arrête là, mon temps est révolu. Je voudrais quand même terminer avec un mot d'encouragement. Ce temps sera court. Et fixez vos regards sur ce qui vient après. Parce que si je comprends bien notre texte, cette période très mauvaise pour l'Église sera suivie du retour de Jésus-Christ. Et ça sera la joie. Et une joie sans fin. Et il ne faudra pas garder ce regard, il ne faudra pas perdre ce regard pendant cette période difficile qui nous attend, parce que le meilleur est à venir. Et je voudrais terminer avec un petit morceau de musique qui reprend en fait une des phrases clés de notre texte, de l'Apocalypse 11. C'est un extrait du Messie de Handel, peut-être l'extrait le plus connu, mais peut-être vous l'avez jamais écouté en gardant à l'esprit les paroles que je vous ai mis là avec leur traduction. C'est un beau morceau qui, je trouve, nous donne un avant-goût de ces belles choses qui nous attendent. Amen.